Chers amis des cellules, bonjour. Dimanche prochain, nous célébrons la solennité du Christ, roi de l'univers. C'est pourquoi je voudrais réfléchir avec vous en cet enseignement sur la royauté du Christ d'une part, et dans un deuxième temps, les conséquences que cette royauté a pour ceux qui assument des responsabilités de chef, des responsabilités où l'on conduit d'autres hommes. L'évangile proposé pour cette solennité en l'année Saint-Luc peut nous surprendre, car il s'agit d'un épisode de la crucifixion de Jésus. Entendons le texte tiré du chapitre 23 de l'évangile selon Saint-Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches « Tu ne crains donc pas Dieu, tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous c'est juste, après ce que nous avons fait. Nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Fin de la lecture. Cet évangile nous permet de voir qu'il y a plusieurs avis sur ce qu'est censé être le Christ roi. Nous avons entendu l'avis des grands prêtres, l'avis des soldats, et même l'avis d'un des malfaiteurs crucifiés avec Jésus. Et dans ces trois avis, il y a un élément qui revient, c'est le « sauve-toi toi-même, sauve-toi toi-même ». Si tu es le Christ, si tu es le roi, sauve-toi toi-même, sauve ta vie, sauve-la par toi-même, par ta propre puissance. Cette demande manifeste que l'on attend apparemment du Christ roi. Ce qui nous intéresse dans le Christ roi, c'est l'homme fort, l'homme qui ne dépend pas d'un autre, l'homme qui se suffit à lui-même, l'homme qui peut s'échapper, s'extirper des contraintes par sa propre puissance et qui, on l'espère, nous apprendra à nous suffire à nous-mêmes à notre tour. Cette attente de l'homme fort qui échappe à la contrainte, en particulier à la contrainte de la souffrance et de la mort, est en fait une méprise sur le salut et sur le moyen du salut. On en arrive à chercher, un peu comme dans le règne animal, le mal dominant qui s'impose par la loi du plus fort. La royauté en Israël ne devait cependant pas répondre à ce critère-là. En effet, lorsque l'on contemple la royauté de David, et le Christ était attendu comme fils de David qui allait rétablir, accomplir la royauté promise à David, on se rend compte qu'il y a deux éléments. Un premier élément, c'est une onction de la part du Seigneur, ce qui a été fait par le prophète Samuel, et puis une alliance avec le peuple, dont parle la première lecture de dimanche prochain. Cela signifie que la royauté est reçue, c'est une mission qui est confiée. Ce n'est pas un poste dont on s'est emparé par la ruse ou par la force. C'est une mission où la liberté de Dieu et la liberté des hommes s'est engagée. En effet, en Israël, c'est normalement le Seigneur lui-même qui guide et qui conduit son peuple. D'une certaine manière, c'est le Seigneur qui est le roi véritable du peuple. C'est lui qui le conduit, c'est lui qui en prend soin, c'est lui qui le garde. Le roi d'Israël ne devait pas se prendre pour l'égal de Dieu. Le roi d'Israël était serviteur du Seigneur. Il était l'intendant du troupeau du Seigneur. Il exerçait une vraie responsabilité, mais dont il devait rendre compte au Seigneur, et il devait mener le peuple avec, j'allais dire, le même amour, la même sagesse que ceux du Seigneur. En voyant la qualité du règne du roi, on devait comprendre que c'était bien le Seigneur qui, à travers lui, régnait sur son peuple. La sagesse du roi, la justice du roi, la miséricorde du roi devaient se calquer sur celle de Dieu. L'échec du roi Saül, qui précéda David, est aussi éclairant. En effet, Saül, qui a été oint par le prophète Samuel au nom du Seigneur, qui a été acclamé par le peuple, va perdre de vue la rectitude de sa mission. Comment cela ? En voulant faire plaisir au peuple. Le roi Saül va oublier la volonté de Dieu, va oublier la direction que Dieu veut donner à son peuple par désir de satisfaire les aspirations du peuple. Il y en a plusieurs exemples dans la vie de Saül, mais le plus marquant est celui qui suit une victoire contre le peuple d'Amalek, et le Seigneur avait demandé que l'on ne retînt rien de ceux qui appartenaient à Amalek, on ne retient rien du peuple d'Amalek. Or, les gens, voyant le butin qui avait été pris, se disent, ben non, on devrait chacun avoir une part de butin. Et Saül va du coup oublier la parole du Seigneur, ou va transformer, on pourrait dire, la parole du Seigneur. Alors que le Seigneur a demandé qu'on ne garde rien, Saül va transformer ça en disant, ben, on va faire des parts pour tout le monde, et on fera une part pour le Seigneur avec les meilleures choses, et ce sera la plus grande. Mais le Seigneur ne lui demande pas cela, le Seigneur n'a que faire de, je dirais, du butin. Ce que le Seigneur veut, justement, c'est la confiance et l'obéissance à sa parole, qui est une parole de vie. Le roi doit être et à l'écoute de Dieu, et à l'écoute des hommes. En Saül, l'écoute de Dieu a été abandonnée, a été travestie. On pourrait se dire, mais qu'y avait-il de mal à vouloir faire plaisir au peuple ? Le drame, c'est lorsque, pour faire plaisir au peuple, on oublie la volonté du Seigneur, et donc on se dit en fait que ce que le Seigneur avait demandé n'était pas vraiment la vie pour le peuple, n'était pas vraiment le bien pour le peuple. Et on pense mieux connaître ce qui est bon pour la vie du peuple que le Seigneur lui-même. Cela cache en fait une défiance quant aux paroles, aux règles, aux lois de l'alliance que le Seigneur avait données. Au passage, cela peut être un lieu de méditation pour chacun d'entre nous. Dans quelle mesure ai-je confiance en la parole de Dieu, en ce que le Seigneur demande est une parole de vie pour nous, une parole de croissance, une parole de communion? Ou bien est-ce que je me dis parfois, oh Seigneur, tu exagères un peu, je vais plutôt faire à ma tête parce que je crois que c'est plutôt ça la vie. L'évangile que nous entendrons donc dimanche prochain manifeste la façon dont le Christ exerce sa royauté. Sa royauté nous apprend non pas à être des surhommes, dégagés de toute contrainte par leur puissance personnelle, mais il nous apprend à être des fils du Père. Le Christ est tourné vers le Père dans sa passion. Dans les versets qui précèdent immédiatement l'évangile de dimanche prochain, le Christ s'adressait à son Père en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et le Christ s'adressera dans les versets qui suivent notre passage à son Père pour lui dire « Père, en tes mains je remets mon esprit ». Le Christ et le Christ roi reçoit sa vie du Père. Il reçoit sa vie du Père, c'est-à-dire qu'il vit profondément cette relation. Le Père, c'est celui qui donne la vie. Le Christ est tourné vers celui qui lui donne la vie. Il n'essaie pas de se donner la vie à lui-même. Il vit comme fils, il la reçoit complètement du Père. Et c'est parce qu'il la reçoit du Père qu'il peut la donner, qu'il est libre de la donner, qu'il n'est pas crispé sur la conservation de sa vie. Sa vie, il la reçoit du Père. Et c'est parce qu'il est pleinement ancré dans le Père qu'il peut être aussi pleinement tourné vers nous, qu'il peut être pleinement solidaire de l'humanité dont il a la charge, au point d'être solidaire de l'humanité jusqu'à la croix et jusqu'à la mort sur la croix. C'est parce qu'il est solidaire des hommes jusqu'à la croix et jusqu'à la mort sur la croix qu'il permet à celui qu'on nommera ensuite le bon larron, mais qui était d'abord un larron, vraisemblablement un meurtrier, de connaître la conversion. Le Christ est solidaire de l'humanité, non pas du péché de l'humanité, au sens non pas de la rébellion contre le Père, mais il est solidaire de l'homme jusque dans la blessure que le péché a entraînée, jusque sur la croix, jusque sur la mort, jusque dans la mort sur la croix. Le Christ ne dit pas « c'est trop lourd de vous avoir en charge ». Le Christ a assumé cet accompagnement jusque-là. Dans le Christ, c'est vraiment Dieu qui guide son peuple, et c'est vraiment aussi un homme qui est le lieutenant du Père pour guider les hommes. Il est celui qui est tout tourné vers le Père et en même temps tout tourné vers nous. Il est le Dieu avec nous, parole de vie, vie en lui-même, et qui ne nous lâche pas, qui reste avec nous jusqu'au bout, pour nous ouvrir vraiment ce chemin vers le Père, ce chemin de vie, ce chemin où l'on vit comme lui, où l'on aime comme lui, où l'on reçoit comme lui notre vie du Père. Le Christ roi nous apprend à devenir des fils et des filles adoptives du Père véritable. Et cela a des conséquences pour tous ceux qui exercent des responsabilités vis-à-vis d'autres humains. Responsabilité dans un groupe, responsabilité dans une famille, responsabilité dans une entreprise, responsabilité au sommet de l'État. Celui qui exerce une responsabilité de chef doit premièrement se souvenir qu'il prend soin du peuple de Dieu. Le peuple n'est pas sa chose à lui, c'est le peuple de Dieu. Il a en charge le peuple de Dieu, le peuple qui appartient à un autre que lui. Deuxièmement, le chef se sait choisi gratuitement, c'est-à-dire qu'il n'est pas le Christ lui-même, il n'est pas Dieu lui-même. Il ne peut pas se faire passer pour Dieu, il n'est pas celui qui sait tout, il n'est pas celui qui peut tout, il est celui qui collabore avec le Christ. Troisièmement, il veut la vie avec un grand V pour le peuple, il veut la vie de Dieu pour le peuple. Cela signifie qu'il ne peut pas faire simplement ce que le peuple désire, mais qu'il devra lui rappeler ce que le Seigneur indique, ce que le Seigneur commande, parce que c'est un commandement de vie. Il accepte donc que la gouverne du peuple ne soit pas simplement le lieu où il s'épanouit, mais soit aussi un lieu qui le mène sur la croix. C'est parfois porter notre croix que de conduire le peuple qui nous a été confié. Être chef, c'est accepter d'être confronté aussi à la résistance de ceux que l'on a amenés. Voyez au passage que c'est au pied de la croix, justement parce qu'elle ne s'enfuit pas, que la Vierge Marie devient mère des hommes. Elle est celle qui accepte de vivre aussi ce moment-là, de ne pas s'enfuir, d'être présent, d'être un soutien. C'est parce qu'elle l'accepte qu'elle peut vraiment avoir cette responsabilité d'être mère des hommes. Enfin, c'est le quatrième point, le chef a soin de s'unir au Christ. De s'unir au Christ à la fois parce que le Christ est son exemple, et aussi parce que le Christ est la source de sa fécondité. C'est la puissance du Christ qui pourra toucher les cœurs, qui pourra donner, réconforter, remettre debout, redonner l'élan à ceux dont il a la charge. Ce n'est pas sa puissance personnelle. Le chef s'unit au Christ pour donner à voir à travers lui l'exemple du Christ et pour permettre au Christ d'agir à travers sa vie. Je vous souhaite de bons échanges.